nobody that's in my clique. Yo, it's all in the rhyme. It's logic as long as it's nobody that's in my clique. Yo, it's all in the rhyme. It's logic as long as it's nobody that's in my clique.
Chase you out of earth.
Il est 20h03 et tout de suite retrouvez votre nouvelle mission de Génération Sport. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle émission de Génération Sport, la première du mois de décembre. L'hiver approche, les trêves hivernales approchent aussi, malheureusement pour nous, on va avoir un peu moins de sport, ou au moins d'autres sports, un peu moins de foot et peut-être un peu plus de ski alpin, de ski de fond, tout ça qui arrive. On va vous parler de biathlon dans cette émission notamment. Avant de passer au sommaire, je vais vous présenter les sportifs qui m'accompagnent ce soir. À ma gauche, Paul. Salut Paul.
Salut Faustin, comment tu vas?
Bah, ça va très bien toi?
Ça va très bien, encore une bonne semaine de sport.
Exactement.
On espère que ça continue comme ça, comme tu l'as dit, bientôt les trêves, mais bon, c'est comme ça.
Il y en aura toujours du sport, évidemment. Pour nous accompagner ce soir, il y a aussi Robin. Salut Robin.
Salut Faustin, salut à tous. Comme l'a dit Paul, exactement, grosse semaine de sport avec une multitude de sports, une grosse semaine européenne, notamment au niveau football, dont on va parler. Bon, on a une défaite du côté du SCO dont on va parler aussi, mais on peut pas tout avoir, comme on dit.
Voilà, ça, il y a du bon et du mauvais. Dans le local, c'était pas fameux cette semaine, mais pareil, on y reviendra. Et enfin, avec nous ce soir, c'est Mathéo qui est avec nous. Salut, Mathéo.
Salut Faustin, bonsoir à tous. C'est bien, tu finis par le moins sportif des trois. ça fait plaisir. Non, c'était dans le bon ordre. Ouais, grosse semaine de sport qui arrive, et puis grosse semaine de sport qui est arrivée aussi, qu'on va décrypter. Là, tout au long de l'émission, on a pas mal de sujets, donc il va falloir être sur un bon rythme aussi.
Mais tout à fait, parce qu'on parlera évidemment des actualités locales, comme vous en avez l'habitude. Un petit passage sur le SCO, dont on parlera un peu plus longtemps, la Ligue 1, la Coupe de France et les Coupes d'Europe de football. On parlera de l'équipe de France de basketball qui a fait ses deux matchs de qualification pour le Mondial. On parlera aussi du Mondial de handball, du Giro, un peu de F1, et on finira avec le jeu, comme on le fait maintenant, on essaye de le faire toutes les semaines. Et on va commencer sans plus tarder avec les actualités locales et le basket. Pas de match pour Cholet et le AB en raison d'une trêve internationale donc. Mais on a eu deux sélections en équipe de France pour Cholet avec Gérald Ayayi et Nathan De Souza qui était seulement partenaire d'entraînement, voilà, pardon. Du côté de l'UFA maintenant, victoire 64-61 en Eurocup contre les Slovaques de Piestany. Elles finissent deuxième de leur groupe et affronteront donc Villeneuve-d'Ascq au prochain tour. Elles ont ensuite repris la boulangère Wonder League en perdant 75-76 contre Landerneau. Du côté du Scorant, défaite là aussi 36-20 contre Créteil avec un écart de 10 buts dans la seconde mi-temps. Notamment, les Angevins n'ont rien pu faire dans ce match. Ils tenteront de se rattraper samedi au Hara contre Lorient. Du côté du Sco Rugby, pas de match cette semaine, mais un prochain match dimanche à Clamart. Pour les Ducs, d'abord victoire contre Valenciennes, 4-3, puis deux défaites d'affilée. La première contre Bordeaux en prolongation 4-3 et la seconde contre Grenoble 6-4. Ces deux défaites les font descendre à la deuxième place du classement devancée par Rouen et avec seulement 3 points d'avance sur Grenoble. Voilà, c'est un peu une petite phase compliquée du côté des Ducs après avoir vanté à affronter quand même de grosses équipes. Mais ça ne change rien au début de saison excellent des Ducs. Vous entendez peut-être, je suis un peu enrhumé, je parle un peu du nez parfois, voilà, vous m'en excuserez. On veut passer au SCO maintenant. On en parlait, défaite à Raymond Coppa ce week-end. Défaite 2-1 contre Lens, un but refusé sur hors-jeu et un pénalty annulé également pour le SCO. Est-ce que vous avez vu les images du pénalty, les gars, et qu'est-ce qu'on en pense?
Du coup, moi, j'ai vu les images. Bon, sur le premier coup, tu te dis que oui, il y a pénalty. Mais quand tu regardes un peu plus sur ralenti, tu vois quand même que Prosper Peters commence déjà un peu sa course à tomber un peu dans le moment où le défenseur arrive. Mais bon, malheureusement, ça fait partie du jeu. Il a un peu essayé, mais bon, ça n'a pas suffi. Et malheureusement, on n'aura pas eu de péno à Coppa ce week-end.
Ouais, t'es pas loin donc de cette égalisation parce que les Lensois ont donc mené 2-0 grâce à 2 buts de Florian Thauvin, une magnifique frappe dans un premier temps à la fin de la première mi-temps pardon et un tir contré qui trompe Zinga parce que Hervé Kofi ne pouvait pas jouer contre Lens, le club par lequel il est prêté au SCO, et c'était ensuite j'ai plus le nom de l'égalisateur du SCO parce que vous l'avez,
c'est Djibrin.
Voilà, merci. Je l'avais pas noté, mais voilà, égalisation assez dans la fin de match, vers la 75e minute.
76e, ouais, juste après le but de Thauvin, 2 minutes après.
C'est ça, et qui pouvait relancer un peu le SCO, qui a mis du temps quand même à jouer. Moi, j'ai trouvé dans ce match, je sais pas ce que vous en avez pensé. On est passé à 5 défenseurs pendant une partie de la deuxième mi-temps, avant de se relancer sur un 4-4-2. Est-ce que c'est une stratégie qui a été trop tardive, peut-être pour toi, Mathéo?
En vrai, je sais pas. Je pense pas que ce soit la mauvaise stratégie, honnêtement, qui a été employée par du jeu, parce que en face, il y avait une équipe de Lens qui avait forcément à cœur d'être leader de Ligue 1, qui avait la possibilité de l'être et qui l'est du coup. Quand même, faut le dire, on a perdu face au leader de Ligue 1, donc c'est quand même.
On a mis un but face au premier Ligue 1.
En plus, donc non, je pense pas que ce soit une mauvaise stratégie, parce que dans la logique des choses, si Angers défendait bien, et c'est quand même ce qui a été plus ou moins le cas, je trouve. Lens allait plus se découvrir à la fin du match, toujours avec cette envie forcément d'aller chercher quelque chose, d'aller arracher la victoire qui était obligatoire pour être premier de Ligue 1. Donc forcément la stratégie, je la trouvais assez intéressante, surtout que tu vois en fin de rencontre Prosper Peter qui est rentré, qui a failli du coup nous offrir ce penalty et rentrer à la place de Louis Mouton, Shérif Rest. Enfin voilà, on a vraiment ce changement de dispositif comme tu l'as dit, qui
qui est assez intéressant et qui a failli fonctionner. Donc non, je pense que Dujeu a fait ce qu'il a eu à faire, sachant que le SCO aurait pu aller chercher un match nul, et que je pense que c'était l'idée de base d'aller chercher plus le match nul que la victoire.
Mais attends, ouais, on n'est pas passé loin aussi avec d'autres actions. On a parlé de ce but refusé en début de période, dès la 8e minute sur hors-jeu de Prosper Peter, de City Sheriff, pardon. On a eu aussi des belles occasions qui n'ont pas fait mouche. Lens également tapé deux fois la barre en fin de rencontre. Donc le résultat aurait également pu être un peu plus sévère. Et j'aimerais vous poser une question. Est-ce qu'il y a un joueur un peu qui vous a marqué du côté du SCO pendant ce match? Personnellement, j'en ai un, mais j'aimerais avoir votre avis.
Bah moi, j'ai beaucoup aimé la prestation défensive de Jacques Icomier, personnellement, que j'ai trouvé assez intéressant sur le flanc droit, si je dis pas de bêtises. C'est pour ça que j'ai bégayé sur le flanc gauche. Désolé, mais ouais, je l'ai trouvé assez intéressant défensivement. Après. C'est surtout des performances collectives, je trouve, niveau SCO. Contrairement à ce que tu t'as pensé, Faustin, moi, je trouve que la première période était pas si mauvaise que ça. Je l'ai trouvée assez intéressante. Et après, plutôt une logique stratégique ou plutôt tactique assez logique pour le coup aussi, avec si on le sait, le SCO qui défendait bien pouvait accrocher un résultat, pourquoi pas un match nul, etc. Après voilà, comme tu l'as dit, le réveil était un petit peu tardif, on a eu du mal à emballer cette fin de match malgré le penalty logiquement refusé, je trouve aussi. Ouais. Je rejoins Paul, donc un joueur à ressortir, oui, moi je sélectionnerais Jacques Icomier pour ma part.
Ok, moi de mon côté, je pensais à Amine Esbaye, une fois de plus, qui a fait d'immenses différences sur son côté, pas de par ses dribbles hein, essentiellement. C'est un peu ce qui nous manquait de la part du SCO, enfin du côté du SCO, qu'on n'avait pas vu dans ce mercato, qui nous faisait peur et qui est finalement arrivé un peu sur le tard après le départ d'Esteban Le Poll. Mais qui nous fait un bien fou en attaque avec ces jeunes buteurs que sont Prosper Peter et Sidiki Chaïf, qui peuvent être parfaitement servis pour des tapines de la part de Amine Esbaye. Donc moi, ce serait le joueur que j'aurais retenu. Je sais pas s'il y a un autre joueur qui vous a marqué, vous, Paul ou Mathéo, pendant cette rencontre.
Non, moi je te suis complètement sur Amine Esbaye. Bah déjà, il est passeur sur ce match et du coup ça montre encore qu'il est très très en vue en ce moment. Mais oui, il fait beaucoup de différence, c'est surtout ça qui nous fait beaucoup de bien depuis qu'il est arrivé, et faut qu'il continue comme ça. Là, j'ai un point que j'ai vu où quand même le SCO n'a plus l'encadrement salarial de la DNCG. Ouais, du coup, faut espérer que ça continue comme ça sur ce recrutement, avec des joueurs qui vont apporter du plus pour une équipe qui en a besoin, mais surtout pour une équipe qui doit continuer à avoir ce socle solide en ce moment qui est en train de se créer avec le coach.
Ouais, ton côté Mathéo, pareil, Amine Esbaye, impressionnant.
Bah effectivement, Esbaye, c'est ce qui est intéressant. Alors toi, t'as cité quand même d'autres joueurs, et je pense que c'est exactement ce qu'il faut faire, dans le sens où le SCO l'année dernière n'avait pas du tout cette bonne gestion, cette gestion plus parfaite par rapport à aujourd'hui de la profondeur, ce qui est fait aujourd'hui par les Sheriffs, les Prosper Peter. Donc maintenant, j'ai trouvé que c'était pas non plus le match référence qu'il a pu avoir sous nos couleurs. Moi, je pense à quelqu'un qui est pas une recrue, mais qui est presque tout comme, c'est Ousmane Camara, qui s'est vraiment mis en patron de la défense à chaque fois. Moi, il me bluffe. Il a vraiment cette capacité physique de nous apporter une sérénité que normalement t'es pas censé avoir forcément dans un club qui joue le maintien. Généralement, le un ou deux des deux centraux peuvent être un peu peuvent ressentir des difficultés.
Ouais, un peu fébrile.
C'est quelque chose d'assez courant. On l'a vu avec Saint-Etienne l'année dernière, notamment. Donc c'est vrai qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a Jordan Lefort quand même qui est vraiment ancré dans cette défense depuis très longtemps maintenant, qui loupe très peu de matchs, et on a quand même un Ousmane Camara qui est venu en plus prendre la place d'un Bioumla qui était intéressant l'année dernière. Parce que Robin, tu parlais de Jacques Écomier, quand il arrive de Bordeaux, Jacques Écomier, il est quand même assez décrié, on lui lance un peu des pierres parce que à Bordeaux, il est pas performant en Ligue 2, parce que c'est un joueur qu'on nous dit limité, on nous parle de Bioumla comme un énorme espoir, et effectivement Bioumla, il arrive, il est super intéressant, mais in fine, on arrive aujourd'hui à un Jacques Écomier qui est titulaire, Bioumla qui est blessé, etc. On espère que Bioumla va revenir effectivement, mais je trouve que la résilience des Comiers à ce niveau-là, elle est très sympa, et du coup c'est ce qui fait que ouais, on a forcément de la sympathie pour cette défense centrale, et pour moi la figure principale de ça, c'est Ousmane Camara.
Bah, tout à fait. Donc après cette journée de Ligue 1, le SCO est 12e, voilà, toujours à 5 points comme la semaine dernière, la zone de relégation avec Metz 17e et Nantes 16e surtout. On s'éloigne un peu de l'Europe, malheureusement.
Objectif.
Ça reste notre objectif.
Mince. Alors,
on va le garder en vue toute la saison. Prochain rendez-vous, c'est contre Nice, à Nice. J'ai envie de dire qu'il y a toujours quelque chose à jouer quand on va à Nice. On en parlera peut-être dans les rubriques qui suivent. Mais ouais, pourquoi pas aller chercher au moins un point avant d'affronter Nantes à Copa pour le derby. Là aussi, des points qui vont être importants à prendre. Les trois points, c'est ce qu'on vise évidemment pour consolider toujours un peu plus ce maintien. On va enchaîner avec la Ligue 1, avec toi Mathéo.
Oui, une 14e journée de Ligue 1 qui commençait à Metz, à Saint-Symphorien, avec cette nouvelle victoire rennaise, hein, les coéquipiers d'un Rongier buteur qui continue d'enchaîner cette fois-ci sur la plus petite des marques avec un 1-0. Samedi, Monaco a surpris le PSG qui laisse filer la première place avec cette victoire à 10 à Louis II, 1-0. L'autre club parisien, le Paris FC, a laissé filer des points aussi face à une équipe d'Auxerre qui décidément n'abdique pas, un partout. Dans la soirée, Marseille avait l'occasion de reprendre les rênes de la Ligue 1 mais a loupé le coche à la dernière minute et concède le nul de partout, comme a titré l'équipe. Hidalgo a sauvé Paris. Dimanche, autre surprise, Strasbourg s'est incliné à domicile après sa belle victoire en Coupe d'Europe. Trois jours plus tôt, on en parlera tout à l'heure, contre Crystal Palace. C'est Brest qui donc joue un mauvais tour aux hommes de Liam Rossignol. Victoire 2-1 pour des Bretons qui continuent leur remontée au classement. Durant le multiplex, donc, le SCO s'est incliné face à des Lensois qui ont pris la tête de la Ligue 1. De leur côté, les Niçois continuent leur mauvaise passe de 6 défaites de suite, toutes compétitions confondues, avec cette fois-ci un revers à Lorient 3-1. Dans le même temps, c'est Lille qui s'est imposé à 10 contre 11 face au Havre. Dans la soirée, l'OL a fêté ses 75 ans de la meilleure des manières avec cette victoire 3-0 sur Nantes, avec notamment un doublé d'un Satriano qui n'avait plus marqué en Ligue 1 depuis avril 2024. Au classement, la hiérarchie est bousculée, avec tout en haut Lens qui s'empare pour la première fois depuis 21 ans de la tête du championnat. Il devance le PSG, l'OM, Lille et Rennes qui constituent ce top 5. Alors plus largement, c'est tout le top 8 de la Ligue 1 qui tient en 9 points, entre Lens qui se trouve à 31 unités et Strasbourg qui en a 22. C'est très serré. Un championnat mouvant aussi en bas, puisque si Auxerre reste dernier de Ligue 1, c'est seulement à 2 points de Metz et de Nantes qui viennent compléter cette zone de relégation, à 3 points de Lorient et du Havre. Ce week-end, la 15e journée de Ligue 1 nous réservera un alléchant Lille-Marseille, PSG-Rennes ou encore Toulouse-Strasbourg. Et puis habituellement, après 14 journées, on se demande qui peut compléter le podium derrière le PSG. Mais cette saison, la question, elle est tout autre. Alors au-delà de ce haut de classement très serré, c'est tout en haut que nous allons regarder. Le club de la capitale, moins dominateur, a laissé entrebâillir une porte, une minuscule brèche dans laquelle se sont engouffrés les audacieux. Lens en tête, Marseille à l'affût, le LOSC n'est qu'à 5 points. Des précédents de ce type, on en a Montpellier en 2012, Monaco en 2017 et le LOSC en 2021. Des sacres nés d'un alignement des planètes, effectivement, mais de groupes aussi très forts et surtout d'une absence hégémonique parisienne. Alors, est-ce que le miracle peut se produire cette saison? C'est la question que je vous pose. C'est peut-être un peu tôt, hein, après 14 journées, mais avec la baisse de régime du PSG, ces petits points laissés par-ci par-là, et puis surtout la Ligue des Champions aussi, qui va forcément être un objectif large en fin de saison. Je vous questionne, est-ce que cette saison en Ligue 1, on pourrait avoir une surprise tout en haut sur la première marche du podium de Ligue 1?
Moi, de ce qu'on voit en ce début de saison, j'ai envie de dire que oui, c'est possible. Essentiellement quand même parce que le PSG lâche beaucoup de points. Ils ont misé gros sur la saison dernière, en enchaînant tellement de matchs, en allant jusqu'en finale de Ligue des Champions en la remportant, en allant jusqu'en finale de Coupe du Monde des clubs en la perdant malheureusement. Mais voilà, et ça se ressent cette saison sur les blessures. On a eu Désiré Doué, Dembélé, on a Hakimi récemment, il y a eu Vitinha, João Neves, enfin bref, tout l'effectif quasiment a été blessé, c'est assez impressionnant. Donc ouais, c'est cette raison qui me fait essentiellement dire que on peut avoir une surprise si le PSG se reprend pas, mais si le PSG se reprend et commence à être en bonne santé, il peut redevenir le rouleau compresseur qu'on le connaît.
Effectivement, on a ce 11, tu l'as dit, qui a été pas mal chamboulé par les blessures, mais au-delà de ça, on a quand même eu la découverte aussi de nouveaux profils, de nouveaux joueurs qu'on a vu aussi titulaires en Ligue des Champions, qui ont été vraiment intéressants. Il y a peut-être cette profondeur de banc cette année au PSG quand même qui est plus intéressante, plus active sur le terrain et à la fin peut-être plus efficace. Donc est-ce que sur la durée, là aussi, les corps vont fatiguer pour tous les clubs de Ligue 1? Est-ce que toi, Paul, par exemple, tu penses que Lens, avec l'effectif quand même qu'ils ont, c'est un effectif qui s'est renforcé cet été, mais à coup de quelques petits millions d'euros, est-ce que ça peut le faire aujourd'hui pour eux?
En vrai, j'ai envie de te dire que je l'espère, parce qu'on espère tous qu'il y aura du suspense jusqu'à la fin, comme Lens l'a fait comme il y a pas très longtemps, il y a trois ans contre Paris, enfin, où ils étaient quand même à un point. Mais il faut espérer, malgré le fait que, comme tu le dis, c'est à quelques millions, il y a des prêts et c'est un projet qui commence, parce que Pierre Sage vient d'arriver, il y a beaucoup de joueurs qui viennent d'arriver. Donc j'ai envie de te dire que je l'espère que ça va continuer comme ça, mais en même temps, est-ce que ça va être possible, parce que c'est quand même un projet qui débute, du coup il y a toujours un peu de temps. Et Paris, comme l'a dit Faustin, si l'équipe se renforce avec les joueurs qui vont revenir de blessure Et du coup, les équipes comme Marseille, Lille, Lyon qui jouent la Coupe d'Europe toutes les semaines vont peut-être avoir plus de difficultés à enchaîner tous les matchs. Peut-être que ça va être plus compliqué. J'espère pas, parce que on espère tous un suspense. C'est comme ça la magie du football. Mmh. Et on espère que ça continue comme ça, parce que comme tu l'as dit, quand même, on a les 8 premiers en 9 points. C'est quand même alléchant et ça donne envie de regarder la Ligue 1 chaque semaine. Donc j'espère que les équipes vont continuer comme ça, mais j'ai du mal à croire que ça peut continuer indéfiniment comme ça pendant toute la saison.
C'est vrai, t'as abordé un point que je voulais aborder aussi, que je vais te questionner un peu, Robin, sur ce sujet-là, mais c'est vrai que là, on a, comme tu l'as dit, Paul, et comme je l'ai dit aussi dans mon texte, 8 équipes en 9 points, le haut de classement de la Ligue 1, même si on sort de cette lutte pour la première place, il est super intéressant, ne serait-ce que pour la lutte pour la Ligue des Champions.
Ouais, exactement, même pour la Coupe d'Europe en général, même pour les places Europa League, pour la Conference League. Non, c'est un championnat qui est intéressant à suivre cette année. On sait que voilà, il y a souvent un écart qui se crée, surtout sur le début de la deuxième partie de saison. La fin de première partie de saison, on ne l'a toujours pas. Donc ça va être intéressant à suivre. Après, oui, je reviens sur ce que vous disiez avant sur les premières places. Ça va être à double tranchant, c'est-à-dire qu'on sait que voilà, il y a des blessés côté PSG, et que souvent deuxième partie de saison, en plus ils retrouvent leur effectif, ça va être plus compliqué, ils vont lâcher moins de points. Mais il y a aussi ce risque de se dire que le PSG va peut-être plus se focaliser sur la Coupe d'Europe, et donc on a l'impression déjà actuellement que le PSG délaisse un petit peu le championnat, y accorde un petit peu moins d'importance. Donc c'est la question, est-ce que ça va suivre ou non. Mais oui, pour les places qui sont un petit peu plus en bas, voilà, on a vraiment du suspense. On en parlait même avec le SCO, qui sait si avec un grand run, etc., qui peut passer. Mais oui, on en a déjà parlé les autres semaines. C'est-à-dire que on prend Rennes, juste Rennes qui jouait le bas de tableau. Ils font 4 victoires d'affilée. Ils sont désormais 4e, si je me trompe pas.
Oui, 4 ou 5, je sais
pas. Ou 5. Donc non, franchement, c'est un championnat très intéressant à suivre cette année. On espère, comme l'a dit Paul, qu'il y aura un petit peu de suspense jusqu'à la fin de saison. J'ai envie de dire, malheureusement, un peu comme tous les ans, tout dépendra du PSG, ce qu'il décide de faire. Et voilà, mais ouais, c'est très intéressant à suivre pour cette fin de saison, en tout cas.
Puis rappeler que le PSG aussi a eu pas mal de manquements sous l'ère Qatari sur les premières parties de saison.
Mmh, c'est vrai.
Et puis derrière, à la fin, forcément, sur le rythme, c'est le PSG qui gagne. En tout cas, on va continuer de suivre au jour le jour, à la journée, cette Ligue 1. Et on passe à un tout autre sujet qui reste ancré dans notre Ligue 1, mais c'est un sujet qu'on n'aime pas forcément voir, parce que si le sport est une affaire de passion et d'émotions fortes, il y a des limites qui ne doivent jamais être franchies. C'est pourtant ce qui s'est passé à Nice. 6 défaites consécutives, une crise sportive, et après la défaite à Lorient dimanche soir, l'accueil que près de 400 supporters ont fait aux joueurs à leur retour au centre d'entraînement était assez violent. L'objectif officiel était d'interpeller les joueurs, mais le résultat, c'est un déchaînement de violence assez inacceptable. Des crachats, des bousculades, des coups portés, les joueurs Terem Moffi et Jérémy Boga, ciblés pour leur mauvaise attitude présumée, ont été violemment pris à partie au point d'être aujourd'hui en arrêt maladie. Le premier pour une semaine et puis le second pour 5 jours. Ils ont déposé plainte, la LFP a fermement condamné ces actes. Et c'est constitué en partie civile. C'est une fracture ouverte qui détruit l'image de la Ligue 1, quand même, du sport de manière générale, au-delà d'être assez hideux humainement. Le malaise sportif ne justifie en aucun cas l'agression physique. La question est désormais de savoir comment les clubs, la Ligue et la justice doivent répondre à ces violences pour que de tels événements ne se reproduisent plus. On va rester en France. En football toujours, mais cette fois-ci avec la Coupe de France, puisque le verdict est tombé. Ce lundi, le Parc des Princes a livré les affiches des 32e de finale de la Coupe de France. C'est l'entrée en lice des clubs de Ligue 1. Et ce tirage, c'est celui des voyages exotiques, des gros écarts de niveau aussi. Rendez-vous le week-end du 20 décembre pour les premiers exploits potentiels. Honneur aux têtes d'affiche, le tirage a été d'une clémence presque historique. Pour les favoris, le Paris Saint-Germain partira en Vendée, défier Fontenay, club de National 3, même son de cloche pour l'Olympique Lyonnais qui reçoit Saint-Cyr-Colonge, Mont-d'Or, un club de Régional 1 de sa propre région, à peine 10 km séparent les deux clubs. Et puis Marseille ira à Bourg-en-Bresse, c'est un club un petit peu plus connu en National 1. Alors que l'on espérait aussi des belles affiches, le tirage n'a accouché que d'un seul duel entre clubs de Ligue 1. Auxerre recevra Monaco, un match où l'AGIA, lanterne rouge du championnat, pourra se refaire face à l'ASM 6e dans l'espoir d'un renouveau. Pour le reste des pensionnaires de l'élite, il faudra éviter les pièges du niveau national, notamment le leader Lens qui ira chez l'entente Feni Olnoy en N2, et puis le LOS qui ira à Saint-Maur-Lucitano. Puis malgré les écarts de niveau, la Coupe de France garde aussi sa magie, notamment pour le FC Lorient par exemple, qui tire le gros lot du voyage avec l'AS Gosier, un club de Régional 1 en Guadeloupe, hein, vous en avez peut-être entendu parler, puisque Lorient aura l'honneur d'affronter l'ancien joueur de Ligue 1 Claudio Beauvue, meilleur buteur aussi de son championnat de Régional 1 dans son club formateur. Le SCO devra aussi se méfier des Herbiers, deux clubs qui ont déjà connu la lumière d'une finale de Coupe de France coup sur coup en 2017 pour le SCO, puis en 2018 pour les Herbiers, tous deux défaits par le PSG à l'époque. Et puis pour les autres clubs de l'élite, donc les trois, on a trois clubs pardon qui affronteront des clubs de Ligue 2. Nice jouera à Saint-Étienne, Strasbourg à Dunkerque et Le Havre contre Amiens. Et puis Rennes fera le voyage contre les Amateurs des Sables, tandis que Toulouse ira à Lyon-la-Duchère en N3 également, Metz à Biéchem en N2, et puis Nantes tentera d'éviter le piège à Concarneau. Et puis enfin, Brest se rendra à Avranches. On n'en a pas forcément parlé de ce tirage du SCO face aux Herbiers. On va peut-être prendre quelques temps pour en parler quand même. Hyper abordable sur le papier.
Ouais, exactement. Équipe assez abordable forcément, puisque c'est une équipe avec quelques divisions quand même inférieures, inférieures au SCO. Après, on l'a vu il y a quelques années quand même que c'est toujours des matchs pièges. Forcément, la Coupe de France, c'est toujours des matchs à part, entre guillemets, mais toujours des matchs qu'on aime suivre parce qu'il y a toujours des surprises. Bon, on l'espère pas forcément du côté du SCO, mais d'autres clubs de Ligue 1 ou même Ligue 2, on sait que c'est vraiment la compétition des petits poussets, donc faudra faire attention pour le SCO. Ouais.
Oui, une anecdote qui est intéressante quand même, anecdote, je vais réussir à le dire, qui est intéressante, c'est quand même qu'on tombe face aux Herbiers. Et effectivement, les Herbiers, finale de Coupe de France en 2018, le SCO en 2017, deux équipes qui en plus ont eu une vraie opposition face au PSG. Enfin, les Herbiers ont pas pris 6 ou 7-0 alors qu'à l'époque c'était en National 1. Le SCO a perdu à la toute dernière minute, on se rappelle, hein, de ce but contre son camp de Sissoko. C'était assez terrible. C'est aussi un match de gala en fait de Coupe de France sur deux équipes qui ont été en finale il y a pas longtemps. Robin, t'en penses quoi toi?
En vrai, c'est cool. Enfin, j'ai envie de te dire que déjà, c'est bien de voir les Herbiers à ce niveau-là parce que c'est un petit moment que c'était pas arrivé. Qu'un club qui a du coup été aussi en finale, c'est toujours super de voir ça. Et puis en plus, contre le SCO, un peu de magie. En plus, c'est un peu un derby quand même puisque c'est dans notre bon vieux Pays de la Loire. Donc un beau match. J'espère que le SCO l'emportera parce que on est chauvin et on veut que le SCO aille le plus loin possible. Mais c'est un match, je pense, qui va faire du bien aux deux équipes.
Et puis ça va être l'occasion aussi de faire jouer des jeunes, forcément, comme on aime bien le faire.
Exactement.
On passe à la Coupe d'Europe, ouais.
C'est ça, on reste sur le football et on passe cette fois au niveau européen avec toi, Robin.
Oui, exactement, puisqu'on a eu le droit une nouvelle fois à une spectaculaire journée de Ligue des Champions entre les larges défaites surprises du Barça et de Liverpool et les scores fleuves, lors des rencontres entre le PSG et Tottenham ou encore entre l'Olympiakos et le Real Madrid. C'est une semaine plutôt réussie, même très réussie, pour nos clubs français qui sont désormais tous dans le top 24 pour accéder au barrage. Mardi, Marseille, d'abord mené à l'issue de la première mi-temps, a su renverser la tendance lors du deuxième acte en s'imposant 2-1 grâce à un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang. Dans le même temps, on en a parlé en introduction, le FC Barcelone s'est fait vraiment balader par Chelsea. Les Blaugrana, déjà réduits à 10 à la fin de la première période et malmenés dans le premier acte, se sont effondrés en seconde mi-temps et ont subi leur deuxième défaite dans cette phase de ligue. Mercredi, c'était au tour de Monaco et du PSG. C'était à 18h45 pour les Monégasques qui ont vraiment contre-performé face aux petits poussets, Paphos, avec un match nul concédé face au club chypriote. Paris, de son côté, a assuré l'essentiel face à Tottenham avec un match spectaculaire au Parc des Princes. Mené à deux reprises 1-0 puis 2-1, les Parisiens se sont finalement imposés 5-3 dans une pluie de buts, avec notamment une performance XXL de Vitinha et un triplé à la clé, qui permet au club de la capitale de remonter à la deuxième place derrière Arsenal, seule équipe à réaliser un sans faute avec une nouvelle victoire la semaine dernière face au Bayern. Dans le même temps, on peut également évoquer Kylian Mbappé qui a brillé du côté de la Grèce avec un quadruplé inscrit en l'espace de 38 minutes. Il a d'ailleurs inscrit ses trois premiers buts en 6 minutes 42, proche de réaliser le triplé le plus rapide de l'histoire de la Ligue des Champions, juste derrière Mohamed Salah, et ses 6 minutes 12 inscrits face aux Glasgow Rangers en 2022. Jeudi, Nice a subi une énième défaite face au FC Porto 3-0. Les chances des Niçois de finir dans le top 24 sont désormais quasiment nulles. Et même leur coach Franck Hez ne nourrit plus aucun espoir puisque lui-même déclare qu'ils ne se qualifieront pas, qu'ils ne passeront pas, alors qu'il reste pourtant 3 journées. De leur côté, Lille et Lyon ont chacun décroché un large succès et un clean sheet avec une victoire 4-0 pour les Lillois face au Dynamo Zagreb à domicile et une victoire 6-0 des Lyonnais contre le Maccabi Tel Aviv avec notamment un triplé de Corentin Tolisso. Une victoire qui permet d'ailleurs aux Lyonnais d'être leader de leur phase de ligue, de cette Ligue Europa, après 5 journées avec 12 points. Enfin, pour terminer, on va également évoquer les Strasbourgeois qui ont obtenu, on en a parlé tout à l'heure, un succès de prestige avec une victoire 2-1 face à Crystal Palace. et qui leur permet de décrocher d'ailleurs une deuxième place dans cette phase de Ligue. Outre Nice donc, bon dernier de la Ligue Europa, toutes nos équipes françaises sont dans les places qualificatives, soit pour les barrages, soit pour les accessions directes aux huitièmes de finale, à trois journées de la fin. Donc encore une fois, une belle journée, une belle semaine pour nos clubs français.
Bah heureusement que les clubs français ont performé pour moi.
Exactement, parce que du côté du FC Barcelone,
pas la peine d'y revenir, mais
bon match, belle équipe.
Ouais, belle équipe, bien joué Chelsea, bien joué Stevao. Moi,
ouais, c'est qui le meilleur entre les deux 2007?
Ah non, c'est le Mignamal quand même. Parle pas comme ça de la Mignamal.
Ah, désolé, moi. Je suis
là, non, mais ouais, bien joué à tous nos clubs français, sauf Nice, une fois n'est pas coutume. Mm. Malheureusement, bien joué à Lyon aussi, Mathéo.
Ça fait plaisir. Dire, voilà. Leader de Ligue 1, non mais voilà, enfin de Ligue Europa, ça peut peut-être arriver, leader de Ligue 1, Ligue Europa, voilà, on peut essayer de manger sur tous les tableaux.
Mais voilà, en tout cas, bravo à tous nos clubs français pour cette belle journée de Coupe d'Europe. On va passer à la pause musicale. Cette semaine, c'était le début du mois de décembre et tous les récaps un peu de l'année sont sortis. Je vais donc évidemment vous mettre mon son le plus écouté de l'année. Et non, ce ne sera pas du Yanis. Malheureusement, l'album est sorti trop tard, sinon ça aurait
été... Zamdan.
Non, même pas.
Ah.
Ouais, étonnant, même moi j'étais étonné.
Ouais, c'est un peu, ouais.
Ce sera du Jungle Jack.
Ok, en fait, honnête.
Avec Alpha One. Il me semble que je l'avais mis
oui,
à un moment
donné. Oui, tu l'avais déjà mis, je crois.
C'est XX Files de donc, Jungle Jack en feat avec Alpha One.
Con il giornale. Con il giornale.
Jeune hustler, visère tout le monde dans le cluster. Grosse pain de ligne, REP, Chad Butler. Problème manteau et peine de cœur. Flash dans le manteau ou allume une feuille pleine de fleurs. Sprite pour et comment te faire. Je connais des bouts outillés comme les Ghostbusters. XX Files, Vesquisse que l'IM Mulder. Steel Fly comme un point de coke. Jack, je reste high avec plein de smoke. Underground comme une onde sismique. Protège ton âme dans ce monde mystique. Il en faut peu pour que ça se complique vite. Tu peux te faire piéger, liquide suspect dans le cocktail. Réveillé dans une chambre d'hôtel qui sent les fluides corporels. Les histoires bressons, j'en ai plus que Edgar Allan Poe. C'est pas la pauvreté, mais la folie qui nous colle à la peau. T'as mis du Louis V, tiens-toi à carreau. Ça passe de la sacoche au sac à dos. Renvoie le tatou, charcle au sac à rose. CMC sort d'un plat carreau. Ça se souvient ouvertement, je me demande comment c'est pas ta hausse. Reconnais quand les vrais cafards posent. Attire les milfs qui pop du à tarax. La queue dans le coquillage comme flagados. Ces types me passent le mic comme on passe un balai à un lion pour qu'il nettoie sa fosse. Le voisin plainte sur tes côtes sans faire de face à face. Pourtant il s'écrase dès que vous êtes l'un face à l'autre. Les keufs tournent comme une broche avec des chamallows. La wax transforme ton cerveau en gaz. Pas de show, oui, cheesy comme un plat de nachos. Souligne, j'avance comme une tortue des Galapagos. Stylo Timberland parce que j'écrase ta prose.
Crash comme infamas sur infrabasse. Un seul gâteau, 15 rapaces. Fini flingue ramasse. Faut bien me ralasse. Rap suprême écrit dans un palace. Reconnais le one à la bille. Je veux peser comme le roi d'Arabie. Chacun sa clé, on peut pas faire des doubles. Cuisine cette merde et touille. Le produit est vrai, pas besoin de mettre des douilles. Tout droit, sans faire des tours. Gère le charbon, gère les cours comme un top boy, gère les tours. Pourquoi les pointeurs prennent moins que les vendeurs de drogue? Pourquoi je suis comme Jack, un éventreur de prod? Pourquoi ils font les clowns vendeurs, chanteurs de pop? Je dirais à mes gosses, fuyez devant l'agent. Vous étouffez pas avec vos grosses cuillères en argent. Hein, laisse ma division faire la diff. Négatif, anti-frère factice. Mon plan se déroule comme un préservatif. Bébé, prends ta ventoline, je t'emmène à Santorini. On peut louer des scooters ou un Lamborghini. On veut s'engraisser et pas faire des diètes. Rallume le chalumeau quand le fer est tiède. Je pars direct avec le directeur. Gère les dièses sans intermédiaire. Charbonne comme une chinoise. Je remplis le grimoire au bled dans une jeep noire. On va le faire la vie de WAM. Paris Sud jusqu'à Aubert, je suis là, j'opère. Je veux l'argent Julia Robert. Que le cash on passe plus par le notaire. Je pesais des tonnes, j'ai deux téléphones. Je suis pas bénévole, bah les couilles. Quel été se fait des formes.
S'est enfoncé dans la jungle pour cesser de penser à cette douleur.
Et voilà, c'était XX5 sur le 101.5 FM de Radio G ou bien sur le site www.radio-g.fr. On va enchaîner avec le reste des actualités internationales et je vais encore vous parler de basket, pas de NBA cette fois-ci, mais de l'équipe de France qui jouait donc deux matchs pour la qualification à la Coupe du Monde de 2027. Je vais donner d'abord la liste des joueurs, j'en parlais dans les actualités locales. On a Gérald Ayayi qui a donc été sélectionné pour participer à ces deux rencontres. On a aussi Andrew Albici qui c'était donc ses deux dernières rencontres en bleu, il l'a annoncé avant de prendre sa retraite internationale. On a aussi Hugo Benitez, Adam Mokoka, Benjamin Sen, Mathieu Strazel, Axel Bouteille, Nicolas Lang, Mathis Doussou-Yovo, Lionel Godou, Louis Labéry, pardon, Bodian Massa, Yves Pont et Kylian Tilly. La France a d'abord vaincu la Belgique 79-63 avant d'être défait contre la Finlande 83-76. Pas grand chose à dire sur la victoire contre la Belgique qui est assez logique. Mais le match contre la Finlande, il y a plus de choses à redire. Il est assez malheureux ce match car la France a mené toute la rencontre mais sans prendre de réels avantages qui leur a coûté trop cher. Le money time a été assez mal géré et les Finlandais ont finalement ont particulièrement été adroits pour repasser devant à 2 minutes 30 de la fin du match. Un retard que la France n'arrivera pas à combler. Finalement, elle finit avec une défaite et une victoire en ce début de qualification pour le Mondial 2027, avant d'affronter la Hongrie deux fois d'affilée pour la suite de la qualification le 27 février. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour le basket. On espère voir aussi une liste peut-être un peu plus compétitive, j'ai envie de dire, pour les prochaines rencontres, même si ça n'a que de la qualification, ça devrait le faire. Mais il faudrait quand même se l'assurer. Là, il y a eu beaucoup de joueurs, notamment de Belgique Elite, qui ont été sélectionnés par Frédéric Fautou. On sait qu'il avait dit qu'il voulait changer un peu cet effectif, amener des nouveaux joueurs et du renouveau. C'est ce qui a été fait. Voilà, va falloir tester et voir quel roster sera le mieux pour finir ses qualifications. On va enchaîner toujours avec de l'international et avec le handball, avec toi Paul.
Et oui, car depuis le 27 novembre, les championnats du monde féminin de handball se déroulent en Allemagne et aux Pays-Bas. Tenant du titre, l'équipe de France est partie des grandes favorites de la compétition. Les Bleuets disputaient leur premier match le 28 novembre face à la Tunisie. Après un début de rencontre en douceur, la troupe de Sébastien Gardiou a rapidement pris le contrôle du match et s'est imposée 43-18, lançant idéalement son mondial. Le deuxième match de cette phase de poule avait lieu ce dimanche contre la Chine. Après la très large victoire inaugurale, l'objectif était de confirmer pour prendre un avantage significatif en vue de la qualification. Sérieuse et efficace du début à la fin, les Français se sont imposés 47-21, portant leur total à 4 points en 2 matchs. Grâce à ces deux succès nets, les Bleus sont d'ores et déjà qualifiés pour le tour principal, avant même leur dernier match du tour préliminaire prévu ce soir à 21h contre la Pologne, pour un match un peu plus engagé que face à la Tunisie et à la Chine. Voilà, est-ce que vous suivez un peu ce mondial, messieurs ?
Pas vraiment de mon côté.
Non, non plus. Bah, j'ai juste vu les scores, effectivement, qui sont fleuves, mais j'ai pas suivi, non.
Ouais, moi non plus, personnellement, c'est pas. Le handball, c'est un sport que je suis, mais plutôt de surface, c'est pas vraiment.
Malheureusement, Amaury et Alex ne sont plus dans
Ils doivent se retourner là où ils sont. Ça, là.
Peut-être que Amaury reviendra dans l'émission dans deux semaines.
Donc, il arrivera dans le Money Time de la compétition, ouais, je pense.
Justement,
ce sera la fin quasiment. Ouais.
Il pourra nous en parler un peu plus longuement si on veut parler de handball dans l'émission. On va continuer un peu sur l'équipe de France et on va parler de biathlon cette fois, parce que le premier relais mixte de la saison est remporté par la France. Le premier à partir sur les skis était Émilien Jacquelin, pas le meilleur au tir mais toujours excellent sur les skis, ce qui lui permet de passer le relais en tête à Éric Perrault qui, contrairement à Émilien, était plus fragile à ski mais sécuritaire au tir, ce qui lui a permis d'être encore aux avant de la course pour lancer sa coéquipière Justine Brezaz-Boucher. Ça a été le relais faible de cette formation française car elle comptait jusqu'à 30 secondes de retard après le tir couché. Heureusement, une révolte sur les skis et un bon tir debout permet à Justine de passer le relais à Lou Jeanbonneau avec seulement 10 secondes de retard sur les Italiens. Et on a eu le droit à une immense Lou Jeanbonneau qui réalise des tirs parfaits, rapides et efficaces, solides sur les skis également. Elle permet à la France d'assurer la première place, devançant ainsi l'Italie et la Norvège sur le podium. En ce début de saison, la France est excellente avec 4 podiums en 4 courses et 2 premières places. Robin, tu nous disais en off que tu adorais le biathlon.
Exactement.
Qu'est-ce que tu en as pensé de cette course ?
Exactement. Bah, moi, j'avoue que la première, je ne l'ai pas trop suivie. J'ai plutôt suivi la deuxième où la France a donc terminé deuxième derrière la Suède. et la Norvège, il me semble, la Suède première place et la Norvège troisième, si je dis pas de bêtises, ou peut-être l'inverse.
Norvège première, ouais.
Je ne sais plus, c'est quelque chose comme ça, mais voilà, les relais, c'est moi pas ce qui me passionne forcément. C'est plutôt les courses individuelles qui m'intéressent, mais j'ai hâte que ça débute. C'est dès le week-end prochain, normalement, toujours sur le même site. Donc ouais, hâte d'être le week-end prochain avec toujours cette attente. Est-ce que Lou Jean Monod sera toujours au top? Est-ce que Eric Perrault peut, avec la retraite des frères Beu, essayer de grappiller peut-être pas un titre de champion du monde, mais essayer de grappiller ouais peut-être une deuxième place ou quoi, ou batailler
au moins un podium, ouais,
au moins voilà. Donc ouais, plutôt de l'attente sur cette semaine de biathlon.
Voilà, en tout cas cette saison de ski de ski de fond pour le coup commence relativement bien pour nous Français. On va suivre évidemment ça dans les prochaines semaines. On va enchaîner avec la suite des actualités internationales en parlant un peu de cyclisme et du Giro avec toi, Mathéo.
Oui, parce que le parcours du Tour d'Italie 2026 qui aura lieu du 8 au 31 mai a été dévoilé lundi à Rome. Il marque un net assagissement par rapport aux éditions récentes, fini les empilements de cols et les orgies de dénivelé. Cette 109e édition se veut raisonnable et plutôt équilibrée. Le tracé présente un profil plus stratégique avec 5 étapes de haute montagne, 7 arrivées au sommet et un unique contre-la-montre individuel de 40 km en Toscane, un seul contre-la-montre, donc un signal fort pour Remco Evenepoel qui ne devrait pas participer au Giro, privilégiant les classiques. Lui qui attend pourtant un signe pour retourner sur le Tour d'Italie qui lui a souvent été défavorable, hein, puisque ses deux dernières participations se sont transformées en abandon. À l'inverse, ce parcours harmonieux pourrait séduire Jonas Vingegaard, tenté par le doublé Giro Tour de France, aussi car sa difficulté mesurée n'hypothéquerait pas le reste de sa saison. Un Giro qui présente aussi l'avantage de l'absence sans doute de Pogacar, qui privilégiera le Paris-Roubaix malgré un grand départ anecdotique en Bulgarie. La montagne offrira des moments décisifs, à commencer par le Blokos lors de la 7e étape, 246 km jusqu'au col, qui nous offrira 13,7 km de spectacle à 8,5% de moyenne. Suivra ensuite l'étape Rennes lors du dernier vendredi 6 cols, dont le Passo Gio, hein, l'un des cols mythiques, qui sera le point culminant de ce Giro avec ses 2223 mètres d'altitude lors d'une journée avec plus de 5000 mètres de D+. Ce Giro 2026, avec une troisième semaine gargantuesque, pourrait également servir d'entrée en matière pour Paul Seixas, hein, s'il ne débute pas en grand tour, par le Tour de France.
Tout à fait, on attendra évidemment de voir ce que Paul Seixas décide de faire comme tour. A priori, peu de chance que ce soit le Tour de France.
Peu de chance, en tout cas, c'est ce qui avait été dit l'année dernière par son équipe. À voir. Moi, je le verrais bien commencer par un Giro, comme a fait Pogacar, comme font beaucoup. Surtout que celui-ci est en effet plus mesuré en termes de col, moins difficile. On peut voir, on l'a vu finir cet été des courses assez longues au championnat du monde, donc moi je pense que ça peut commencer à être intéressant pour lui, ouais.
Voilà, on verra en tout cas ce que ça va donner et on espère le voir au meilleur niveau évidemment. On va finir cette actualité internationale avec un peu de Formule 1, parce qu'on a le droit à un scénario de dingue au Qatar, alors que McLaren avait l'occasion de réellement creuser l'écart avec Max Verstappen et s'assurer le titre à Abu Dhabi, mais la stratégie de course de McLaren a clairement été défaillante après une safety car, ce qui a permis à tout le monde de retourner au stand pour des raisons de sécurité. Chaque pilote devait revenir au stand à un certain moment dans cette course. McLaren a décidé de ne pas faire comme tout le monde. Ils se sont donc retrouvés avec une stratégie en décalé, ce qui leur a clairement porté préjudice. Piastri est parti premier et finit finalement deuxième. Et Norris, parti deuxième et premier au classement général, finit quatrième. C'est Verstappen qui remporte donc cette course et relance une fois de plus dans cette saison de F1 complètement folle la course au titre, qui jouera donc sur le dernier Grand Prix à Abu Dhabi ce week-end. Avant la dernière course, Norris se trouve à 408 points. Un podium lui suffirait donc à assurer son titre. Verstappen est juste derrière à 396 points et Piastri à 392 points. Dans tous les différents scénarios, tous les pilotes, les trois pilotes peuvent finir champion du monde. C'est une situation qui n'était pas arrivée depuis très longtemps. Et on va avoir un Grand Prix d'Abu Dhabi extrêmement intéressant, qui va jouer dès les qualifications évidemment, avec McLaren qui est évidemment en pole position, j'ai envie de dire, pour aller chercher ce titre de champion du monde, avec Lando Norris qui est donc à 408 points et qui a juste à devancer finalement Max Verstappen pour finir champion du monde. Est-ce qu'on a suivi un peu autour de la table la saison de F1 et qu'est-ce qu'on a pensé aussi de cette défaillance au Qatar de la part de McLaren?
Bah moi, je vais parler surtout de ce Grand Prix avec une stratégie comme toi que j'ai pas du tout compris. Alors, soit je me suis dit potentiellement, voilà, déjà ne pas s'arrêter à ce moment-là, c'était pour moi c'était complètement irréel. Mais sur la suite de la course, alors soit c'est qu'il n'avait plus de pneumatiques soft, mais après pour chausser des hard pour les derniers tours, alors qu'on sait que pour rattraper les pilotes devant, c'est le pneumatique qui est le moins rapide. Donc non, j'ai pas trop compris la stratégie de McLaren qui se tirait un peu une balle dans le pied vu. Pour vis-à-vis du dernier Grand Prix, qui laisse entrouvrir une grande chance de titre encore pour Red Bull et pour Verstappen. Donc oui, assez étrange ce Grand Prix. Et comme tu l'as dit, ça laisse un gros suspense parce que même Piastri, dans des conditions un petit peu plus difficiles, c'est un petit peu plus compliqué. Mais même Piastri pourrait décrocher ce titre de champion du monde. J'avais regardé si jamais les trois participants pouvaient finir à égalité complète. Ah ouais. Mais ça ne marche pas parce que ça aurait marché avec le point du meilleur tour qui a été enlevé depuis cette année. Okay. Donc ça ne marche pas. Mais oui, ça va être un Grand Prix assez intéressant. On espère en tout cas pour McLaren pour qu'il y ait un petit peu de changement, qu'ils adoptent pas une stratégie aussi mauvaise et c'est aussi énorme. Étrange que ce week-end.
Ouais, c'est un peu de finale, un peu de suspense, pardon, dans ce championnat de F1. Ça fait toujours du bien. On avait l'habitude de voir un peu, surtout Max Verstappen ces dernières années, ultra dominant et plier le championnat très tôt dans la saison. Là, on va avoir une vraie finale à Abu Dhabi. Rendez-vous donc le 7 décembre pour le résultat et connaître, qui soulèvera cette coupe finalement. Voilà, pour les actualités internationales. On va finir avec un petit jeu que tu nous as préparé, Mathéo.
Ouais, j'ai même deux trucs. Je vais pouvoir prendre ça, mais non, le premier jeu qui est assez simple va concerner le match du coup de PSG Tottenham, parce que j'ai découvert quelque chose, c'est que avant cette saison, le PSG n'avait affronté Tottenham qu'une seule fois. C'était en amical en plus lors de la International Champions Cup. Cette compétition avec le Covid a fait disparaître. Alors déjà, est-ce que autour de la table on se rappelle de ce match?
Pas du tout.
Ça m'étonne pas du tout. Le PSG s'est incliné 4-2 et moi ce que je vous demande c'est le 11 parisien parce qu'il est pas très difficile en 2017. Donc il est pas très difficile le 11 parisien à trouver. Par contre, il y a aussi des joueurs de Tottenham et là j'en veux 7 parce qu'il y a vraiment des profils qui sont pas forcément très connus. Donc du coup, je vous laisse
c'est
commencer
été
à me
2017. Ouais. Okay.
C'est été 2017, ouais.
Quel mois? Juillet, ouais, quel ou août mois. Parce que en août, on sait très bien ce qui se passe.
C'était juillet.
Okay.
C'était juillet. Okay.
Donc pas de grosses recrues, pas de gros renforts. Okay. Je vous aide un peu. Donc si on commence par le gardien, peut-être vous pouvez me donner le gardien.
Gardien, je dirais. J'ai même une hésitation, moi qui suis beaucoup le PSG, j'ai même une hésitation au poste de gardien.
Il a pris
je dirais peut-être encore Alphonse Areola.
Non.
Mais
Non,
c'est un peu
un top modèle.
Ah, c'était Meunier. Non, Meunier, je suis en ouf, moi. Je suis en mal mental.
Un top modèle.
C'est Trapp.
Ouais, c'est Kevin Trapp. Ouais.
Une Trapp.
Kevin Trapp, donc pour le premier joueur parisien, je vous aide. Il y avait 4 défenseurs.
Ok.
Défense à 4.
Thiago Silva.
Non, il n'était pas là, Thiago Silva. Il était déjà parti, je pense.
Non,
ah,
non
il est parti en 2020. Pas sûr. Ah, il est parti en 2020.
Ouais.
Kimpembe, très mauvais. Kimpembe était là, ouais.
Avec Marquinhos.
Exactement. Charnière centrale.
Latéral gauche.
Kurzawa,
ouais, latéral gauche.
Latéral droit, je pense qu'il était parti, j'allais dire Vanderville, mais je pense qu'il était déjà parti.
Non, c'est celui qui est après Vanderville.
C'est Daniel Berchiche.
C'est Daniel Wes.
Daniel Wes.
Ouais. Effectivement. Ouais. T'avais raison, Paul. Alors, on avait, 5 milieux. 5 milieux, dont un duo, un petit duo, original. Je pense qu'il va pas être facile à trouver.
Rabiot.
Il y avait Rabiot dans le lot, qui est passeur décisif d'ailleurs.
Verratti
Encore.
Non, pas Verratti.
Il est pas titulaire
Non.
Ah là là.
Stambouli
Non.
Non.
Stambouli était parti, je crois.
Stambouli était pas là, ouais.
Krikoviak
Non. Là, je sais même pas Krikoviak.
Il était arrivé en 2016 avec Emery, ouais, c'est pour ça.
Oui, le coach, c'était Emery d'ailleurs. Ça peut vous aider à débloquer certains profils.
Bêtises, mais Draxler était pas encore arrivé.
S'il était là. S'il est arrivé en hiver 2017.
Je pensais que c'était en été 2017. Donc, Julian Draxler peut-être?
Non.
Il n'est quand même pas là.
Non, il n'est pas là. Là, on est vraiment sur les postes les plus reculés. Le double pivot. Okay.
Donc, avec Rabiot.
Je peux vous aider sur le numéro du joueur. C'est un numéro 8. Et effectivement, là, il porte le numéro 8.
Oh. C'est fou de ne pas avoir de mémoire comme ça.
Quelqu'un de légendaire, une grande légende du foot.
Ah, Mota.
Ouais.
Ah, il est encore là.
Ouais.
Ah ouais, mais il part dans la foulée.
Il a dû partir.
Oui, il part dans la foulée.
C'est un de ses derniers matchs.
Je pensais qu'il était déjà parti. Donc après, bah, il doit y avoir Di Maria.
Di Maria était pas là. Okay. Di Maria était pas là. Il nous reste 4 joueurs.
On attaque encore Cavani.
Ouais, Cavani était là en 9, ouais. Donc il vous reste le trio offensif qui est assez compliqué.
Non. Lucas Moura.
Non.
C'est des jeunes.
Il était même pas à Tottenham en plus, Lucas Moura.
Donc, bah non, mais il était à Paris à ce moment-là.
Oui, oui, oui.
Avec des jeunes. Oui, est-ce que Timothy Weah était déjà parti?
Oh non, mais Timothy Weah, je sais même pas si en 2017 il était en pro.
Mais je me demande justement s'il était. Mais il est pas,
il est pas dedans et il est même pas sur les remplaçants, Timothy Weah.
Et pas Coman en 2017?
Non.
Coman est déjà parti.
Non, non.
Parti en 2014.
Non, mais en vrai, je peux commencer à vous aider. Le premier joueur, on l'a bien connu à Valence.
Ah, Guedes.
Ouais, Gonzalo Guedes. Le deuxième, il a joué à Tottenham.
Aurier,
Lo Celso.
Lo Celso, effectivement. Et le dernier, c'est un 10. Voilà, je vais pas en dire plus parce que sinon c'est trop simple. Mais c'est un 10.
C'est fou de pas avoir de mémoire comme ça. Je suis choqué. Hein.
C'est pas Neymar.
Mais non,
on sait jamais.
C'est qui le dernier?
Non, un qui a peut-être même autant marqué, voire peut-être plus que Neymar au PSG.
En termes de but, il a beaucoup marqué parce que
c'est le joueur que c'était
Pastore.
Son profil.
Ah, Pastore, mais oui, il était encore là, mais c'est vrai.
Il part à ce moment-là en plus.
Oui, bah, son en fait, c'est qu'il y a plein, il y a plein de joueurs qui partent dans la foulée en fait.
Bah, c'est ça, c'est dur. Bah, je peux vous dire sur le banc. Sur le banc, on avait Di Maria, on avait Ressé Rodriguez,
encore.
On avait alors ça pour ceux qui connaissent Lorenzo Calegari. Je sais pas si ça vous parle.
C'était un
milieu offensif.
Un milieu qui a été recruté, mais qui a quasiment jamais joué.
Il était formé au PSG, Calegari. Après, il a fait toutes ses classes en national. Et là, je sais pas, il doit être en, je sais pas où il est maintenant, mais il était en national. Il y a Nkunku, Rémi Descamps. Voilà.
Ah oui,
c'est ça. Areola, Matuidi, Lucas Moura, Hudson Edouard et Yuri Berchiche. C'était ça le banc. Et là, la difficulté, elle est plus compliquée. Elle est plus grosse. En vrai, j'ai dit 7 parce qu'il y a vraiment des joueurs, ça va être impossible à trouver sinon.
Bah, Loris,
dans les cages. Dans les cages, okay, ça fait un.
Hard Alvered.
Non, pas titulaire. Non.
Vertonghen.
Vertonghen est titulaire.
Vertonghen.
Sanchez.
Non. Non, Sanchez devait pas être recruté.
Est-ce qu'il y avait Serge Aurier
plus tard. Non.
Non, il était pas.
Non. À droite, c'est quelqu'un qui est assez connu, qui a joué à Southampton, si je dis pas de bêtises. Bah sinon je peux vous dire un milieu qui joue pas milieu de base, un milieu défensif, alors qui joue pas forcément
d'ailleurs,
milieu d'ailleurs.
Eric Dier. Est-ce qu'à gauche Emerson Royal était déjà parti?
Emerson Royal il est arrivé il y a pas longtemps, enfin il est parti il y a pas longtemps mais il est arrivé il y a pas très longtemps.
Hein?
Bah je pense il est jeune. Était...
En vrai il y en a au moins Emerson, deux là qui sont faciles à trouver.
Moussa Dembélé.
Moussa Dembélé effectivement.
Son.
Non.
Kane.
Non.
Oh, les deux n'étaient pas bien. C'est vrai que c'est l'été.
À gauche, j'ai un Gallois, si ça peut vous aider. Latéral gauche. Un Gallois.
Latéral gauche, Gallois.
Ouais.
Ah ouais.
Daniel James.
Aujourd'hui, je sais même pas où il joue aujourd'hui. Je sais même pas.
C'est pas Daniel James.
Gallois,
t'as pas dit
Gallois,
c'est... Gallois, c'est ça, moi, je crois un peu les gars.
C'est compliqué.
Bah, il est toujours à Tottenham, hein, d'ailleurs. Effectivement. Il n'est pas parti. C'est un fidèle.
Plus que fidèle,
fidèle parmi les fidèles. 17 matchs cette saison en PL.
Daniel James.
Bah, vas-y, essaye.
Non, parce que je pensais à Daniel James, mais non. Il me semble pas que c'est.
Attends, latéral gauche.
Latéral gauche, alors là, franchement.
Il joue pas forcément latéral gauche de base, je pense.
J'ai. Là, aucune inspiration.
À gauche, c'était Ben Davis.
Oh.
Donc, ouais. Frustrant.
Je le voyais British, je le voyais pas du tout
mais moi,
gallois.
Je anglais, moi.
Ouais, bah, il est gallois, Ben Davis, mais c'est vrai qu'il a un nom d'anglais.
Ouais.
Y en a un qui est évident que vous avez pas trouvé encore, je ne vous donnerai aucun indice. Aucun.
Attends. Au milieu de terrain?
Ouais, au milieu de terrain.
Et pas Modric?
Ndombele. Non, bah non, c'est après.
Non.
Ndombele, non, c'est après.
C'est encore plus aussi.
C'est juste évident.
Au milieu. Bah. Sissoko?
Ouais, ce que j'ai. Moussa Sissoko, non?
Ah ouais?
Ah non, il est pas là, Moussa Sissoko.
Non, un vraiment plus évident que ça.
Encore
vraiment
plus.
Vraiment plus évident.
Ah ouais.
Ouais, vraiment plus évident que Moussa Sissoko.
Alors là, plus évident que Moussa Sissoko.
Ouais. En vrai, je peux pas trop vous aider. Je vais vous aider sur le temps que vous réfléchissez à ça, sur le mec qui était à gauche. C'est assez étonnant de le voir titulaire à Tottenham. C'est un gars qui a joué en France, qui est formé en France, qui a joué à Monaco en France, et dans un autre club qui commence par M. Et
Nkoulou.
Nkoudou.
Nkoudou. Bah, ouais. J'ai jamais entre les deux, je me trompe.
Nkoudou avec Kevin Nkoudou. Ok.
Dans le milieu de terrain.
Voilà.
C'était compliqué les côtés. Hein.
Ouais. Et il nous en manque deux.
Bah, le 9 et.
Le 9. Bah non, il nous reste d'autres joueurs. Il y a Onoma, que moi je connais pas du tout.
5 sur 7.
Onoma, qui est d'ailleurs milieu défensif de base et qui l'a repositionné à droite. Okay. Je vais vous en laisser 3 et vous allez essayer d'en deviner 2. Sinon, l'autre, c'est Carter Vickers, que je ne connais pas du tout. Et du coup, il vous en reste 3. Il reste le 9, le 10.
Le 10, du coup, c'est celui.
Dele Alli.
Non. Ah, putain. Pourtant, c'est, ouais, c'est
pourtant,
le moment.
C'est, ah ouais, là, c'est le moment. C'est vraiment le plus évident qu'on cherchait. Mais...
Non. Non, non. En vrai, les trois sont plus ou moins faciles. Je peux vous aider sur le 9. Vas-y. C'est un Hollandais qui a joué notamment à Fenerbahçe, qu'on a pu voir à la Coupe du Monde 2014, notamment. Il a fait quoi d'autre? Il a été formé à Alkmaar, si ça peut vous aider. Attends. Et son passage à Tottenham est vraiment anecdotique.
Van Persie?
Non.
Non, parce que tu...
Non, non, il a fini sa carrière à... Bah non, il a pas fini d'ailleurs, il est encore joueur. Il joue à Antwerp.
Wow.
C'est Janssen. Vincent Janssen. Je sais pas si ça vous parle. Et du coup, il en reste deux. Les deux, vous les connaissez normalement. Je vais commencer par le 10. Le 10, je pense que vous allez trouver direct. Donc, on va le faire très rapidement. Le 10, il est danois.
Eriksen.
Ouais. Eriksen.
C'est pas possible. Eriksen. C'est vrai que.
Après, c'est pas forcément le plus évident parce qu'on a eu toutes les affaires Coupe du Monde, Manchester United et tout. Donc, forcément, Eriksen, c'est pas non plus. Mais même si, bon, voilà. Grande légende. Le coach, c'est qui?
Pochettino.
C'est comme ça, ouais. C'est Pochettino. Et du coup, il vous reste un joueur qui est latéral droit, qui a effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, joué à Southampton. Grande légende de Southampton. Il est pas connu pour avoir joué à Tottenham. Il a fait 3 ans à Tottenham. Il a joué derrière presque 200 matchs avec Southampton. Et aujourd'hui, il joue à West Ham depuis cet été.
Nationalité, c'est
Il est anglais. Il est anglais, il est international anglais, il a joué que 2 matchs.
Ça peut nous aider. Attends. Parce que j'étais parti sur.
Et il a commencé sa carrière en 2017 d'ailleurs. Donc c'est
vraiment. Ah oui, il est formé à Tottenham.
Ouais. C'est peut-être son premier match en pro d'ailleurs.
Southampton.
C'est peut-être son premier match en pro.
Là, il joue à West Ham, t'as dit?
Là, il joue à West Ham.
Waouh. Anglais.
Plutôt évident ou.
En vrai, il est connu. Il est connu. Si vous jouez à FIFA. Vous le connaissez, mais il n'est pas si évident que ça. Genre, vraiment, latéral droit, Lox, Southampton.
Ah ouais?
Ouais.
Quand tu me dis latéral droit, Lox, c'est Wan-Bissaka, mais.
Ouais, c'est ce que j'allais dire, moi aussi,
mais
non.
Mais United, ça ne marche pas. Non, mais oui.
Je peux vous le dire si vous voulez.
Il était latéral droit à Tottenham?
Ouais.
Okay. Et il n'a pas fait d'autres clubs entre?
Entre Tottenham et Southampton? Non, il a été prêté et acheté par Southampton. Okay. Et derrière, il a fait West Ham depuis cette année et il a joué.
Non.
Il a joué 11 matchs.
Ouais, je l'aurais pas. Ouais,
donc... C'est Walker Peters.
Je l'aurais pas jamais trouvé.
Il est très dur.
Ouais.
Hein. Il est très dur.
Je l'aurais pas eu.
Et sinon, alors pour finir avec ceux qui étaient sur le banc, il y avait Vorm, le gardien de but hollandais, qui est notamment connu parce qu'il avait fait des trucs à la Coupe du Monde 2014. Il y avait Trippier, il y avait Kane, Wings, Georgiou, Dizeyi, Oakley Boss, Brown. Voilà, des joueurs après que je vais pas forcément connaître moi non plus. Il y avait Alderweireld et Dele Alli. Effectivement, donc victoire de Tottenham à ce moment-là. On va juste finir avec un dernier petit jeu, une anecdote un peu marrante. Parce que hier c'était le tirage au sort de la Coupe de France. Et on a un club, l'US Chauvigny, dernier rempart du Poitou, qui connaît pas son adversaire pour les 32e de finale. Pourquoi? C'est-à-dire que eux là, il y a eu le tirage au sort. Attends, tout le monde a été tiré au sort.
J'ai vu qu'il y avait deux équipes et il y avait un petit à un endroit justement dans ce groupe-là, dans le dernier groupe.
Envahissement de terrain.
Non.
Je pense que c'est pire que ça.
C'est un truc tout con. C'est un truc tout con et ça arrive régulièrement.
Problème de
d'éclairage.
D'éclairage.
Non. Non. Non, c'est un truc qui arrive vraiment en amateur.
Que c'est que. Ils ont le problème de bus, problème de transport, ils ne sont pas rendus au match, ils ont oublié.
Non,
ou...
non, le match a eu lieu.
Le match a eu lieu
entre Montreuil, club de R1, et Granville, club de N2. Et Montreuil a gagné au tir au but.
Mais du coup.
Un partout et 4-3 au tir au but. Mais on est. Ils ne savent pas pourquoi.
Nombre de cartons rouges, peut-être? Et du coup, peut-être discussion.
C'est pas forcément. Non, c'est pas lié au carton rouge durant le match.
Ok.
Il y avait un joueur qui était suspendu et qui a joué.
Ah, c'est ça.
C'est ça. En gros, c'est une situation qui est assez inédite pour des clubs un peu professionnels, surtout pour Granville comme ça. Donc Granville qui a déposé une réclamation après sa défaite au tour précédent contre Montreuil, puisque le club normand estime que 3 joueurs de Montreuil auraient dû être suspendus. L'adversaire définitif donc de l'US Chauvigny, on ne le connaît pas pour l'instant, mais la décision finale devrait arriver. On n'a pas de date encore, mais du coup là c'est pour ça, c'est parce qu'en gros il y a 3 joueurs qui auraient dû être suspendus selon Granville à Montreuil, et donc voilà, ils font une réclamation alors qu'ils ont perdu. Voilà.
Bah merci Mathieu.
C'est ça. C'était une petite anecdote, je trouve ça un peu marrant.
Voilà. Bravo surtout Paul et Robin pour
avoir été très performant.
Non,
compliqué.
C'était pas facile.
Période de trêve.
2017, Tottenham.
Pas facile.
Voilà, on a quand même été assez efficace. Ouais, ouais. 20h59, bah, il va être l'heure de se laisser. De vous souhaiter une bonne soirée. Moi, je vais me poser devant Barça Atlético en espérant ne pas pleurer comme mardi dernier. Et bah, voilà, on vous souhaite une bonne soirée. On se dit à la semaine prochaine.